La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette déjà 9e émission de la Semaine de l'Art, que vous pouvez écouter bien sûr à partir du site internet La Tribune de l'Art, à partir de notre page qui est indiquée en page d'accueil, que vous pourrez réécouter dans les jours qui viennent et éventuellement podcaster si vous êtes abonné à La Tribune de l'Art. Dans cette nouvelle émission, nous recevons un invité prestigieux, Pierre Rosenberg, que je ne vais pas vraiment présenter. Vous êtes bien sûr Pierre Rosenberg de l'Académie française et également vous êtes président et directeur honoraire du musée du Louvre.
Oui, président-directeur, c'est un point important parce que beaucoup de la tendance aujourd'hui est justement de diviser ces fonctions, qu'il y ait un président d'une part et un directeur de l'autre part. Il y a pas mal d'institutions à l'heure actuelle qui ont adopté cette formule que je trouve pour ma part pas la meilleure pour ce qui est du Louvre. Et je trouve très bien que le président soit aussi le directeur, c'est-à-dire et le directeur aussi le président, dans la mesure où le président réfléchit à longue distance et le directeur gère au quotidien. Je crois qu'il faut faire les deux en même temps.
La chronique.
Nous avons publié aujourd'hui un article consacré au réaccrochage au musée de Picardie à Amiens de plusieurs tableaux de grand format récemment restaurés ou en attente de restauration, et qui pour certains n'avaient pas été vus depuis le 19e siècle. Cette initiative, qui se veut systématique, même si sa réalisation est forcément liée à la recherche et à l'obtention des financements, soit publics, soit privés, grâce au mécénat, est rare dans les musées français, par désintérêt ou méconnaissance, parce qu'on pense souvent à raison qu'il n'y a pas de place pour les exposer, et que cela va coûter très cher pour un résultat qui ne fera pas déplacer les foules. Ces grandes toiles du 19e siècle, on parle là de tableaux qui dépassent souvent les 2 mètres de côté, mais aussi parfois du 17e siècle, je pense à certains mets de Notre-Dame par exemple, ou du 18e siècle, restent dans les réserves, le plus souvent roulés, parfois même jamais photographiés. Certaines de ces œuvres sont ainsi oubliées et, à terme, risquent de disparaître. On pense également à des œuvres totalement hors normes, comme les néoramas, une variante des panoramas, immenses toiles peintes en 1828 par Jean Allot, et représentant l'une Saint-Pierre de Rome, l'autre l'abbaye de Westminster à Londres. Conservées au Louvre, elles mesurent chacune environ 20 mètres de haut sur 60 mètres de large. Il faudrait dans ce cas précis construire dans un musée un bâtiment spécifiquement adapté pour les accueillir. Le Louvre y avait pensé dans le cadre de son annexe lensoise. L'idée était excellente et aurait davantage justifié la construction de cette antenne. Hélas, Daniel Percheron, le tout-puissant président de la région Nord-Pas-de-Calais, trouvait cela « trop religieux », entre guillemets. Nous avions interrogé à l'époque le Conseil Général qui avait démenti. Nous maintenons néanmoins cette information que nous tenons d'une source sûre. Le résultat est là, le bâtiment permettant d'accueillir ces immenses vues d'église n'a jamais été construit. Mais revenons à des œuvres de taille plus raisonnable, soit tout de même fréquemment quelques mètres de côté. Le type même des grandes toiles exposées au salon. Pourquoi ne s'en préoccupe-t-on pas? Pourquoi ne s'interroge-t-on pas sur la manière de les montrer, sur la nécessité de les restaurer? Quelles pourraient être les solutions? D'abord, de les recenser, de les identifier spécifiquement dans les bases de données du ministère de la Culture. Ce serait ainsi l'occasion pour chaque musée de s'interroger sur ces œuvres oubliées. Ensuite, on pourrait envisager que certains d'entre eux, ayant peu de place mais plus d'œuvres qu'ils ne pourront jamais montrer, puissent proposer à d'autres qui disposeraient de la place nécessaire de les leur déposer. Il faudrait aussi que certains conservateurs, adeptes d'un accrochage dépouillé ou un mur égal à un tableau, fassent quelques efforts et acceptent d'exposer, s'ils en ont la place, même sur un deuxième rang, même un peu haut, ces grands formats. Il semble néanmoins peu probable que, tout à coup, les musées se convertissent à l'exemple d'Amiens et décident de faire un meilleur sort à ces œuvres. D'autres solutions doivent être trouvées. Il y a 2 ou 3 ans, Laurent Fabius, dont on connaît l'intérêt pour l'art, avait pour ambition de créer un musée des grands formats près de Rouen. Un projet pris en charge par la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Ausse-Rebert, aussi appelé la CREA, dont il était alors le président avant de redevenir ministre. Tout cela était mené dans le plus grand secret, et malgré nos efforts, nous n'avons jamais pu avoir de renseignements précis. Est-ce toujours d'actualité? Nous n'en avons pas entendu parler récemment. S'agirait-il uniquement d'art contemporain? On espère que non. Il est vrai d'ailleurs que les installations des artistes actuels posent paradoxalement au moins autant de problèmes en raison de leur taille que les grandes toiles académiques du 19e siècle. Une autre idée, au moment où le ministère de la Culture invente des projets aussi farfelus que de prêter des œuvres des musées aux entreprises privées, pourrait être d'envisager pour ces grands formats des dépôts justement hors des musées qui ne peuvent les accueillir. Nous avons toujours milité pour que les œuvres des collections françaises soient toujours conservées dans les musées. Mais une exception pourrait être consentie pour ce type d'objets. Certains grands bâtiments publics, des mairies, des préfectures, certaines églises même, à condition que les conditions de conservation n'y soient pas trop extrêmes, pourraient se voir déposer ces grands tableaux qui retrouveraient ainsi une nouvelle vie. Des exemples existent déjà, je pense notamment au musée des Beaux-Arts de Dijon, qui a déposé dans la bibliothèque municipale, qui se trouve dans l'ancienne église Saint-Étienne, un grand tableau de Jacques-Charles Bordier du Bignon, le combat d'Hippolyte contre le monstre marin. Le mur sur lequel se trouve cette toile pourrait parfaitement accueillir un autre grand tableau, soit appartenant au musée des Beaux-Arts de Dijon, soit d'un autre musée qui ne pourrait jamais le présenter et accepterait de le déposer. Il est absurde, par exemple, de voir de grands tableaux provenant des églises parisiennes être conservés au dépôt des œuvres d'art de la ville de Paris à Ivry, plutôt que d'être exposés dans les églises d'où ils proviennent. Mais à l'heure où la culture devient de plus en plus pour les politiques la cinquième roue du carrosse, j'ai bien conscience que cette idée de restaurer et d'exposer davantage de tableaux de grand format est sans doute utopique. Et pourtant, souvent très spectaculaires, ces œuvres ont tout pour séduire. Elles ne demandent qu'à être vues. Pierre Rosenberg, au Louvre, il y a aussi beaucoup de tableaux roulés.
Alors, les deux tableaux de Halo, je les connais bien, puisque je les ai fait dérouler du temps que j'étais dans ce musée, où je travaillais dans ce musée, au Grand Palais.
Il y a des photos, d'ailleurs, sur la base RMN.
Exactement, je les ai fait photographier à cette occasion. Et là, vous êtes pour une fois, excessivement pessimiste, parce que je crois franchement que les solutions sont à l'étude, oui. Et que lorsque vous recevrez bientôt, m'avez-vous dit, M. Martinez, vous lui poserez la question, oui. Et je pense qu'il pourra vous donner les informations que vous n'aviez pas aujourd'hui.
Très bien, alors donc
je crois que ce sont de bonnes nouvelles.
Ah, ben, alors donc une bonne nouvelle.
Mais je n'en sais pas beaucoup plus, et de toute façon, ce ne serait pas à moi de les annoncer.
Bien sûr, mais comme vous l'avez dit, nous recevons effectivement M. Martinez pour la troisième partie de son interview écrite.
Je pense aussi que si vous recevez un jour M. Amic, le patron des musées de Rouen, lui aussi pourra vous fournir des informations que je n'ai pas perçues.
Alors justement, Sylvain Amix sera invité de cette émission. En revanche, nous allons au Louvre voir M. Martinez pour la troisième partie de l'interview, voilà, la semaine prochaine.
Voilà.
Très bien, donc c'est une bonne nouvelle.
Et alors, je me souviens très bien de ces photographies que nous avions fait prendre. C'était toute une histoire, parce qu'il fallait monter sur les balcons du Grand Palais, parce que c'était naturellement pas dans les espaces d'exposition qui sont bien trop petits, mais
dans la grande nef du Grand Palais. Et alors, le projet, vous parliez de Sylvain Amix, parce qu'à Rouen, c'est toujours d'actualité. Ce grand projet?
Ah ben écoutez, j'avais dit justement il y a un instant que c'était la question qu'il fallait poser à M. Amic et à M. Martinez.
C'est donc je croyais que vous parliez uniquement des grands panoramas, mais ça va plus loin, c'est le projet.
Je crois que le projet va beaucoup plus loin.
D'accord, très bien.
Mais je répète que je suis à la retraite et que ce n'est pas à moi de.
Personne ne saurait que vous m'avez dit cela. Alors, je souhaitais parler avec vous, on peut parler avec vous de beaucoup de choses, en particulier de vos travaux, parce qu'on sait que vous avez. Publié énormément, beaucoup de préfaces, on en parlera tout à l'heure également, et beaucoup d'articles de fond, beaucoup de livres de fond. Et vous avez deux gros projets actuellement. D'abord, le projet Poussin. Alors, dites-nous un peu où est ce projet, qui est un projet, je crois, de catalogue raisonné de l'œuvre peinte.
Absolument. Vous savez, j'avais fait avec lui, Antoine Prat, le catalogue raisonné des dessins, et maintenant, je suis dans le projet d'un catalogue raisonné des tableaux, qui est un travail immense, un travail de chien. Et en fait, quand on regarde un peu ce qui s'est passé par le passé, au fond, le seul catalogue raisonné qu'on puisse appeler ainsi, c'est celui de Blunt. Sir Anthony Blunt, qui est un travail admirable. Je suis tous les jours dans ce livre, si j'ose dire, et je l'admire de chaque fois plus. Alors, il faut rappeler un petit peu l'histoire du livre de Blunt, qui est assez amusante à raconter. Lui-même avait rêvé, depuis sa plus tendre enfance, de faire un catalogue raisonné des tableaux de Poussin, comme moi. Et il avait été appelé à faire les Mellon Lectures à Washington, qui sont les conférences les plus chics qu'on puisse faire, je les ai faites moi aussi naturellement, je ne sais plus quelle année, mais c'était avant les années 58. Et il avait à ce moment-là, pour faire ses conférences, déjà beaucoup travaillé. Et puis est arrivé plusieurs petits événements qui l'ont un petit peu contraint à réviser son projet. D'abord l'exposition Poussin du Louvre de 60, qu'il avait en partie organisé, et qui, avec l'arrivée de nouveaux tableaux, avait remis en cause certaines de ses attributions, certaines surtout de sa chronologie. Puis le colloque Poussin, qu'avait organisé sous la direction d'André Chastel, Jacques Tuillier, et qui lui aussi a apporté un certain nombre d'éléments nouveaux. Et puis l'arrivée de Mahon, Sir Denis Mahon, le grand collectionneur dont on peut maintenant admirer l'essentiel de la collection à la National Gallery de Londres. Et du coup, Blunt a dû se remettre au travail. Et son Poussin, son catalogue raisonné, est paru en 66, donc un travail de 12 ans. Au minimum. Et moi, j'en suis là. Je suis aussi dans ces années. J'en ai encore pour un an. Oui. Le travail est un travail immense parce que la bibliographie sur Poussin est gigantesque. Il y a 1500 références bibliographiques chez Blunt. Il y en aura 4000 ou 5000 chez moi. 4000 ou 5000 références. Alors, je reprends tout, c'est-à-dire les provenances qui bouleversent considérablement ce qu'on savait à ce jour. Naturellement, les questions de chronologie, les questions de copies. J'essaie de mentionner toutes les copies peintes, dessinées que je puisse connaître. C'est un travail immense, je le reconnais. Le travail sera peut-être très mauvais. Ça n'a aucune importance.
Sur bon point.
Non, si, il peut l'être. Mais on sera obligé de l'utiliser pendant 50 ans. Alors, vous aimez les scoops, vous aimez peut-être les petites nouvelles.
Ah, bah, j'aime beaucoup les scoops, nos auditeurs et les lecteurs également.
Je vais être extrêmement bref sur un scoop, parce qu'il va paraître, je pense, assez prochement dans la revue qui s'appelle Grande Galerie, que vous connaissez.
Oui, bien sûr.
J'ai trouvé un poussin au Louvre.
À nouveau.
À nouveau.
Ah, bah, c'est un scoop, effectivement.
J'ai trouvé
un poussin. C'est un scoop pour les auditeurs de la Tribune de l'Art.
J'ai trouvé un poussin au Louvre.
Disons plus. Dites-nous en plus un petit peu.
Non, pas beaucoup plus. Je vous dirais que j'ai trouvé un poussin au Louvre. Il sera publié sous une forme brève dans la Grande Galerie, puis par un article accompagné des rapports du laboratoire et de la restauration dans la revue du Louvre. Et c'est un poussin qui vient des collections de Louis XIV.
Bien. Eh bien, écoutez, nous attendons avec impatience d'en savoir plus.
J'ai écrit il n'y a pas très longtemps que le seul poussin acheté par Louis XIV, qui est poussin, que Louis XIV s'était trompé une fois sur un tableau de poussin, mais il ne s'est pas trompé.
Donc, il l'avait acheté comme poussin
à
l'époque.
Oui, oui. Et il avait raison.
Pas très bien.
Je ne sais pas si c'est lui-même qui, etc. Mais enfin, c'est...
Et le tableau est visible dans les salles ou pas encore?
Non. Il faut le restaurer, etc., etc. Mais à mon avis, je ne sais pas dans combien de temps, là, ça dépend pas de moi, naturellement, mais en moins d'un an, il sera tout à fait...
Et est-ce un beau poussin?
C'est un beau poussin.
Bien. Bon, bah, écoutez, c'est vraiment un scoop, effectivement. Bah, merci de nous l'avoir en tout cas donné, même si vous, vous n'allez pas... Qui édite ce
Flammarion.
Flammarion.
Flammarion. Je suis en contact tous les mois avec les gens qui s'en occupent, parce que c'est une grosse aventure.
Au
minimum de volume.
De volume,
Volume,
et donc, on peut compter dessus l'année prochaine.
Oui. Non, je pense qu'il ne paraîtra pas avant 2016.
2016.
Je voudrais qu'il paraisse en 2016. Flammarion aurait préféré 2015, ce que je comprends, puisque c'est en même temps l'anniversaire de Poussin est mort en 1665.
Oui, oui.
Mais enfin bon. Je préfère, mais j'ai heureusement pour m'aider plusieurs personnes tout à fait remarquables qui, sans lesquelles ce serait impossible.
Parce qu'effectivement, je dis deux fois pour rire, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça va peut-être vous faire rire ou pas, mais quand vous avez effectivement plusieurs personnes qui vous aident, vous avez un atelier en fait, et vous êtes le seul spécialiste de Poussin qui travaille comme Rubens, je dis souvent.
Mais vous savez, c'est très curieux, puisque restons un instant sur Poussin, j'ai fait hier matin, à la demande de Ossola, qui est professeur au Collège de France, un séminaire au Collège de France sur un sujet qui a relativement peu été traité, qui sont les relations entre Bernin et Poussin. Alors Bernin, vous le savez, c'est le symbole du baroque, un mot que je déteste utiliser, et Poussin, c'est le symbole du classicisme. Et on connaît assez bien, on ne connaît pas du tout ce que Poussin pensait du Bernin, mais on connaît très bien ce que Bernin pensait de Poussin. Et il en pensait énormément de bien. Il est à Paris en 1665 à la demande de Louis XIV pour les projets du Louvre, naturellement, et puis aussi pour le buste que l'on connaît de Versailles, qui est un immense chef-d'œuvre. Et la seule chose qui l'intéresse à Paris, à part le boulot qu'on lui confie, c'est de voir les Poussins des collections parisiennes. Et il est admirable devant ces tableaux. Il en dit des choses stupéfiantes. Il est une admiration sans limite. Et on découvre plusieurs choses à ce propos. Premièrement, qu'il a joué un rôle essentiel quand Poussin arrive miséreux à Rome en 1624 pour l'aider, et qu'il a joué un rôle capital dans la commande de Saint-Pierre, qui a été le départ de la carrière de Poussin à Rome, et qu'il a toujours admiré, toujours vénéré, et il est au fond beaucoup plus sévère, il ne le dit pas comme ça, pour Guido Reni, Pierre de Corton, il a une admiration sans bord.
Donc ils se voyaient beaucoup à Rome, ils se fréquentaient.
Et alors, c'est une petite nouvelle, alors ce n'est pas tout à fait un scoop, ils sont allés à deux reprises, quand Poussin était vieux et Bernin n'était pas beaucoup plus jeune que Poussin, 4 ans les séparent, à deux reprises, ensemble, voir le pape Alexandre VII à Castel Gandolfo, ensemble. C'est amusant. Alors, ce qui est amusant dans l'opération, c'est qu'évidemment, on utilise baroque, etc., etc., classique d'autre part, et on voit cet artiste archi-célèbre qui a remodelé Rome à Paris, s'arrêter devant les Poussins pendant des quarts d'heure entiers, se mettre à genoux devant eux, puis il y a les phrases célèbres, il s'arrête devant les cendres de Phocion, le tableau admirable, la mort de Phocion, et il dit en se frappant le front, Moussu Poussin et un pittore qui l'avora di là. Et c'est tellement beau.
En montrant son crâne, bien sûr.
En montrant son crâne. Et puis et la phrase que je trouve admirable, il dit, et un grandissimo favoleggiatore, un raconteur de fables. Il est d'une admiration totale. Et moi, je suis très ému par cette rencontre, si j'ose dire. Je regrette de ne pas avoir trouvé la moindre trace sur ce que Poussin pensait de Bernin, qui devrait avoir manifesté de la reconnaissance. Alors, il n'aime pas les tableaux tardifs de Poussin. Il ne les comprend pas. C'est des tableaux comme, par exemple, le tableau acheté par Lyon.
Oui, le tableau de la fuite en Égypte de Lyon.
Absolument, il n'aime pas.
Alors, curieusement, c'est un tableau que moi, j'aime beaucoup,
oui,
et que beaucoup de gens n'aiment pas.
Je sais bien, mais Bernin non plus.
Ouais.
Alors, il dit, il faudrait que les artistes sachent s'arrêter. Et c'est ce côté très émouvant des vieux tableaux de Poussin, si j'ose dire, où il tremble, où tout est un peu... Le côté l'Orion, c'est quand même une image formidable. Ça lui échappe. Mais le Poussin, je suis en plein tombé dans la marmite. Et ce que je voulais dire en conclusion, plus ou moins de cette excursion poussinienne, c'est que Poussin est un peintre très difficile. Et on voit d'ailleurs que Bernin fait ce que nous ne faisons pas et que vos éditeurs ne font pas, vous non plus d'ailleurs et moi non plus, c'est de s'arrêter un quart d'heure devant un tableau de Poussin. Il s'arrête dans les sacrements qui appartenaient à Chanteloup, qui est donc le guide de Bernin quand il est à Paris, le guide et l'interprète, parce qu'après tout, Bernin ne parlait pas français. Et il s'arrête devant les sacrements de Chanteloup, devant chaque tableau couvert par un rideau, on ouvre le rideau, il s'arrête, mais il s'arrête un quart d'heure. Et Poussin, c'est ça, il faut du temps. Il faut du temps, et si par chance vous tombez dans la marmite poussinienne, vous découvrez l'univers de celui qui est le plus grand peintre français. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, avant Cézanne, avant...
Ne quittons pas Poussin tout à fait, parce que vous parlez des sacrements. La série de Chanteloup, est-ce que c'est celle qui est en cours de dispersion?
Non, c'est l'autre.
Non, c'est l'autre, c'est ça. Alors que pensez-vous justement de cette dispersion qui, moi, me peine un peu?
Alors, vous savez, c'est la première série, celle qu'il a fait pour Cassiano dal Pozzo, que les Français appellent Dupuis, traduction de dal Pozzo. Mais enfin, c'est très bien de l'appeler Monsieur Dupuis. Et donc, cette première série qui, justement, a rendu Chanteloup très jaloux. Il a voulu lui avoir des copies, puis même Poussin a refusé de faire des copies parce qu'il n'aimait pas faire des copies. Puis tout compte fait, il s'est fait prier, il en a fait une seconde série. La première série a joué de malheur. Les deux séries ont joué de malheur, puisque les deux séries ont été en France à un certain temps, et que la France n'a pas été capable de les retenir, ni l'une ni l'autre. C'est ce qui est désolant. Et naturellement, elles sont les deux séries en Angleterre. La série, celle que Bernin a admirée à Paris, est à Édimbourg, en prêt du duc de Sutherland, qui en est le propriétaire. La première série, celle faite pour Cassiano dal Pozzo, a joué de malheur, puisque dès 1939, oui c'est ça, on vend, les propriétaires de l'époque vendent un tableau à Washington, mais avant, déjà en 1817 ou 18, un des tableaux avait brûlé, donc il n'en restait plus que 5. Et les Anglais ont cru qu'ils pourraient acheter les 5, et puis petit à petit, il y en a un qui a été vendu à Fort Worth, assez récemment. Cambridge vient d'en acheter un très très beau, et je pense que les autres, l'Angleterre va tenter par tous les moyens de les retenir, mais est-ce que l'Angleterre va y arriver, je ne sais pas.
C'est vrai qu'ils ont tellement de trésors nationaux chez eux qu'ils ont du mal à...
Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Un de mes grands souvenirs que j'emporterai dans ma tombe, c'est d'avoir pu présenter les deux séries face à face en 1994.
Au Grand Palais,
exactement. Les deux séries complètes, alors que l'un avait brûlé, ça pourrait paraître bizarre qu'elle ait pu être complète, parce que quand la série Cassiano, qui appartenait donc aux héritiers Cassiano à la fin du XVIIIe siècle, a été à vendre, ils étaient ruinés, les dal Pozzo, le pape exerçait ce qu'on appelle aujourd'hui la censure, enfin il ne voulait pas que les tableaux quittent l'Italie. Il voulait les préserver. Et il y avait vraiment un contrôle d'exportation comme il existe encore maintenant en Italie. Et alors, qu'est-ce qu'ont fait les héritiers? Ils ont fait faire des copies des tableaux par un peintre d'origine belge qui s'appelait Bunk, et qui a fait des copies. Et donc, les gens croyaient que les tableaux étaient toujours là. Et en fait, ils ont exporté clandestinement. Et comme un des tableaux avait brûlé, j'ai pu remplacer celui qui avait brûlé en 1994 par la copie, qui entre-temps est entrée dans les collections du Musée di Roma. Et alors, il y a une lettre extraordinaire de Reynolds, le grand peintre, magnifique peintre, un grand admirateur de Poussin. D'ailleurs, qui n'admire pas Poussin parmi les peintres? Admirateur inconditionnel de Poussin, et qui écrit « L'Italie est plus pauvre, mais l'Angleterre est plus riche maintenant. » Il avait une espèce d'orgueil d'avoir pu, etc. Et donc on voit que ces problèmes d'exportation clandestine, d'orgueil national sur les tableaux dont vous faites votre pain blanc là, dans vos émissions.
Ah, non, mais pain blanc.
Oh non, non,
pas
un gros pain blanc. Eh bien, votre prédécesseur du XVIIIe siècle aurait pu faire de même.
Oui, tout à fait. Encore Poussin, une dernière chose sur Poussin. Au Louvre, donc, se prépare une exposition sur Poussin religieux. Est-ce que vous y participez?
Non. Enfin, bien sûr que si. Ils viennent me voir très régulièrement. Mais c'est une exposition qui a une ambition une exposition très importante, mais qui a une ambition totalement différente de la mienne. Elle est plus, si vous voulez, iconographique. Elle s'interroge en effet sur... si vous voulez, Poussin, on ne sait pas ses sentiments religieux. Et en 1994, toujours, il y a eu une polémique qui avait fait à l'époque beaucoup amuser le public entre Marc Fumaroli et Jacques Tuillier. Jacques Tuillier était convaincu, croyait en un Poussin athée. et même un petit peu aussi, si j'ose dire, j'ai pas le bon, vous voyez ce que je veux dire. Et il insistait bien sûr sur le Poussin stoïque, philosophe. Il insistait aussi beaucoup sur un aspect de Poussin qui est capital. C'était que Poussin était un grand lecteur de Montaigne. C'est quand même intéressant que Poussin, au XVIIe siècle, dise Montaigne, qui est quand même une des pensées les plus hautes des lettres françaises. Donc, et Fumaroli, au contraire, lui, défendait un Poussin croyant, en tout cas, dont les tableaux étaient des tableaux religieux. Alors moi, je suis un peu déchiré là, dans cette querelle, plutôt du côté de Thuillier que du côté de Blunt, que du côté de Fumaroli, pour des raisons qui sont différentes. Des sentiments religieux de Poussin, ça n'a aucune importance. Il a voulu les cacher, qu'on le laisse en paix avec cela. Les tableaux eux-mêmes sont plus que des tableaux religieux. La preuve, c'est que qu'ils soient mythologiques, qu'ils soient héroïques, que ce soit Orion, que ce soit la mort de Germanicus, ou que ce soit la mort de la Vierge, ce sont tous des chefs-d'œuvre. Et en plus, si vous voulez, autant on peut dire de Philippe de Champaigne que c'est un peintre religieux, autant je crois que dans le cas de Poussin, je suis un admirateur inconditionnel de Philippe de Champaigne, mais dans le cas de Poussin, qui est un artiste évidemment encore d'une autre stature, ce qui compte, ce ne sont pas tellement la dimension religieuse. Ce qui compte, c'est l'œuvre d'art. C'est-à-dire, avec ses pinceaux, quel que soit le sujet, de pouvoir traiter de la providence, la providence, qui est cette malheureuse Rebecca, Eliezer qui vient, et on voit qu'elle a été touchée par la providence qui fera d'elle la fondatrice des deux religions. Enfin,
pour vous, plutôt philosophe que religieux, en fait.
Je crois que c'est pas comme ça qu'il faudrait le dire. Je crois qu'il est un immense peintre qui, quel que soit le sujet qu'il traite, qu'il soit mythologique ou soit un paysage, ne se laisse pas enfermer dans une catégorie. Je crois que c'est ça. Et je vous dis, Champaigne, pour moi, est un peintre religieux. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est Port-Royal. Chez Poussin, c'est encore une autre dimension. C'est la dimension des plus grands peintres qui soient, qui sont capables de traiter, quel que soit le sujet qu'ils abordent, de la mort, de l'amour, de la vie, de la fin du monde. Le déluge, c'est quand même la fin du monde. C'est quand même la fin du monde. Qui ose peindre la fin du monde ?
Les nouvelles très très brèves.
Des nouvelles très très brèves, donc, qui sont, comme d'habitude, jamais très très brèves. Je ne sais pas faire bref, en fait. Comme prévu, le Conseil d'État a déclaré recevable le recours contre le permis de construire de la Samaritaine, confirmant l'erreur manifeste du juge des référés. Nous avons évidemment abondamment parlé de cette affaire sur la Tribune de l'Art. Espérons que cette juge dort tranquille. Elle a, par cette erreur que l'on peut qualifier d'incompréhensible, permis à LVMH de détruire les immeubles anciens en question, revenant ainsi aux pratiques des années 70 où Paris était livré aux démolisseurs. Donc un nouveau jugement des référés va avoir lieu peut-être d'ici un mois, et sans doute sera-t-il en faveur des associations, mais le mal sera fait, les bâtiments seront détruits. Au moins, espérons-le, on pourra retarder, sinon empêcher, la construction du bâtiment qui viendra défigurer la rue. Aux éditions Faton, et là je pense que ça sera un point sur lequel nous pourrons parler avec Pierre Rosenberg, vont paraître à partir d'avril 2014 en plusieurs volumes l'intégralité ou presque des écrits de Jacques Thuillier. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Les deux premiers volumes paraîtront donc le 14 avril normalement. Le premier volume rassemblera une soixantaine d'articles qui décrivent ses théories d'historien de l'art, d'histoire de l'art. Le second sera une réédition de la peinture française au XVIIe siècle. La collection comportera au total une douzaine de volumes qui permettra d'avoir l'intégralité de son œuvre écrite. Donc ça c'est une bonne
très
nouvelle
bonne
effectivement.
Nouvelle, oui.
Ça sera sous la supervision de Serge Jeumoine. Jacques Thuillier, c'était quand même avec vous, il a découvert la peinture du XVIe siècle avec vous, en fait, quelque part, un petit peu.
Oui, c'est une magnifique nouvelle. C'est très bien que cette publication se fasse. C'est une douzaine de volumes, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est Serge Lemoine qui a pris le projet.
Voilà, c'est Serge Lemoine qui supervise la chose. Donc il y aura une douzaine de volumes, effectivement, avec... C'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, comme vous, enfin vous avez écrit, écrivez partout dans plein de revues, des fois un petit peu obscures qu'on ne peut pas retrouver, et ça permet de réunir comme ça l'ensemble. Récemment, il y avait eu le volume offert à Jean-Pierre Cuzin qui permettait de réunir, et ça c'est quand même choses très très bien, lire tout ce qu'a écrit un historien d'art sur un sujet.
C'est courageux, les éditions Faton, mais c'est très bien, bravo.
Effectivement. Alors, signalons également une autre parution, cette fois-ci sur Internet, la In Situ, la revue de l'inventaire, parce qu'il y a des revues qui ne sont que sur Internet, et donc qu'il va falloir, qu'il faut aller forcément voir imprimer. Alors, je ne parle pas de la Tribune de l'Art, qui effectivement n'est que sur Internet, mais qui est une revue d'actualité. Là, c'est une revue savante, la revue de l'inventaire, consacrée aux conséquences de la Première Guerre mondiale sur le patrimoine. Donc récemment, nous avions signalé le précédent volume qui était consacré, le précédent numéro qui était consacré à la peinture murale. Et cette fois-ci, donc, in situ publie les conséquences de la Première Guerre mondiale sur le patrimoine. Mmh. Alors, une autre nouvelle dont je ne sais pas si vous connaissez ce tableau, Pierre Rosenberg, je vais essayer de vous le montrer. J'ai ajouté un post-scriptum, en fait, à la brève parlant de l'acquisition de la mort vient à table par le musée North Carolina Museum of Art. Donc, une brève que j'ai publiée il y a quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez vue.
Oui, je connais bien ce tableau.
Voilà, bien sûr. Et donc, le musée Léon Dirks conserve ce tableau. Une copie ancienne, d'après Giovanni Martinelli. Vous la connaissiez, cette...
Non,
cette...
je ne la connaissais pas.
Alors, elle n'a pas été restaurée, elle a été achetée chez Marcus en 1969. Donc, la photo a été mise en post-scriptum sur le site. C'est probablement une copie.
La composition a une grande fortune. Le tableau original de la Nouvelle-Orléans, avant de trouver sa paternité, a mis beaucoup de temps. On a même cru un temps qu'il était français.
Oui, je me rappelle, vous l'avez publié effectivement vous-même dans la peinture française du XVIe siècle, dans le répertoire comme français. Et c'est
possiblement
récent.
Français.
Voilà, possiblement français.
Mais l'attribution à Martinelli est sûre. C'est un peintre qu'on reconnaît maintenant assez facilement.
Voilà. Bon, d'après vous, c'est vrai que c'est difficile sur une photo, le tableau n'est pas restauré, mais ça paraît quand même une copie. Hein.
Oui, mais ça a l'air pas mal. Hein. Mm-hmm. Et d'autant plus qu'il y a des variantes par rapport au tableau de la Nouvelle-Orléans.
Bon, enfin, toujours est-il qu'un tableau, tableau bien, qui parfait. Est intéressant et dont la photo a été publiée sur la Tribune de l'Art grâce au directeur de Bernard Leveneur, le directeur du musée Léon Dirks, que je remercie donc par la même occasion.
Mais le musée de Léon Dirks, si je me souviens bien, c'est à La Réunion.
À La Réunion.
Ah oui, c'est bien ça.
C'est un tableau qui a été acheté en 1969 auprès de
J'aurais dû le savoir parce que c'était les années où Jacques Foucart et moi-même nous occupions assez activement des acquisitions du musée de La Réunion.
Voilà, un musée peu connu finalement parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion d'y aller.
Ah oui.
Alors, dernière nouvelle brève, la semaine prochaine ouvre la foire de Maastricht où vous serez bien sûr Pierre Rosenberg comme chaque année et je me rendrai là-bas jeudi et vendredi également, raison pour laquelle il n'y aura exceptionnellement pas d'émission la semaine prochaine. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de se rendre à cette foire, je ne peux que vous le conseiller fortement car on y voit un nombre d'œuvres de qualité tout à fait impressionnant. Il faut au moins 2 jours pour vraiment bien voir la foire.
C'est sûr.
Alors, je me retourne à nouveau vers Pierre Rosenberg. On n'a pas parlé dans vos projets, donc du projet Mariette actuellement.
Ah oui,
alors,
absolument.
Alors,
les volumes français sont parus.
Les volumes français sont parus.
Dans 2 volumes, et maintenant j'en suis avec l'aide de Laure Barthélémy dans les volumes italiens. Et la question est de savoir si nous serons prêts. Et je n'ai pas pu répondre encore de manière définitive à la question. Pour le 15 septembre 2015, parce que le Louvre voudrait faire, à l'occasion de la parution des volumes italiens, une petite exposition des dessins de la collection Mariette, des collections du Louvre. Et alors, ils souhaiteraient, moi aussi naturellement, que cette exposition coïncide avec la parution des volumes italiens. Alors, qu'il est aujourd'hui, j'ai dû donner une réponse encore un peu évasive au patron des dessins du Louvre, mais j'espère bien pouvoir tenir.
Que nous avions ici il y a quelques semaines.
Que vous aviez ici il y a quelques semaines, et j'espère bien pouvoir répondre définitivement définitivement à la question et en effet tenir le délai, c'est-à-dire remettre le manuscrit à la fin de l'année.
Alors, vous avez beaucoup de nouveautés également
Ces volumes sont évidemment assez passionnants parce que ça a été quand même le plus grand collectionneur de dessins, en tout cas en France au XVIIIe siècle. Et sur les Italiens, il aimait beaucoup les dessins italiens. Ce qui me frappe dans l'état du manuscrit tel qu'il est aujourd'hui ou dans les notices que nous faisons, c'est qu'il y a des grands chefs-d'œuvre, évidemment, les grands noms sont tous là, mais il y a aussi beaucoup de fausses attributions. Je veux dire, par exemple, il s'est complètement planté. J'espère que vos auditeurs me pardonneront ce mot.
Ils le feront. Ils sont très magnanimes.
Il s'est complètement trompé pour Tiepolo. Il croyait avoir une demi-douzaine de dessins de Tiepolo. Je pense qu'il n'y en a aucun qui soit de
Tiepolo. Qui est pourtant un artiste assez facile à reconnaître.
Mais oui, puis c'était son contemporain. On aurait pu croire que d'Italie, on lui aurait envoyé. Je ne comprends pas. Il y a comme ça des
Il s'est fait, alors là, on peut employer un terme encore un peu trivial, il s'est fait arnaquer par ses vendeurs.
Peut-être. Je ne comprends pas encore véritablement. Mais les volumes, la collection italienne est remarquable. Gershin est admirable. Il y a des artistes. Alors évidemment, pour nous, le travail, il est comme pour les volumes français, le même. Il faut retrouver les dessins. Ils n'ont pas toujours porté la marque, ils ont souvent perdu leur montage, et les attributions ont parfois changé, et par conséquent la chasse aux dessins Mariette est ouverte et je remercie d'avance vos auditeurs qui posséderaient des dessins qui possèdent un petit thème encerclé en bas à droite ou en bas à gauche de me le signaler.
Alors je crois que nous avions passé une annonce pour le volume français, je ne suis pas sûr que nous l'avons fait pour le volume italien, il faudra le faire.
Mais bien sûr, je vous remercie d'avance.
Et vous avez trouvé des beaux inédits?
Ah oui, c'est inévitable. Enfin, inédit, oui, et surtout inédit car souvent les...
Comme, si vous voulez, la première Venance Mariette était inédite.
Voilà. Surtout qu'en France, ceux qui ont étudié les dessins français attachent une importance à la provenance Mariette. Les innombrables spécialistes du dessin italien, qu'ils soient anglo-saxons ou qu'ils soient italiens eux-mêmes, s'intéressent moins à cette question de provenance que nous. Par conséquent, très souvent dans les publications italiennes, où il y a les dessins sont, font partie des ouvrages, si vous voulez, très souvent dans ces publications, on ne précise pas la provenance Mariette. Par conséquent, il faut que nous les feuilletions, ces volumes, pour repérer dans ces livres les dessins qui sont Mariette, pour que justement on puisse proposer une reconstitution de la collection qui soit à peu près cohérente. J'ai pas dit une petite chose sur Poussin, je peux revenir en arrière.
Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait revenir sur Poussin sans problème.
Pour une raison très simple, c'est qu'à l'occasion de l'apparition donc, du catalogue raisonné, avec un décalage qui sera très modeste, paraîtra, je peux l'annoncer, un volume qui sera le catalogue raisonné des tableaux de Poussin du Louvre. C'est-à-dire que les catalogues raisonnés font partie des fondamentaux, comme on dit, des musées. Et je crois que c'est très utile qu'au moment de l'apparition du catalogue raisonné de l'œuvre complet, on détache les tableaux du Louvre en les naturellement traitant sous l'angle Louvre et non plus sous l'angle catalogue raisonné, pour qu'un catalogue raisonné des Poussins du Louvre.
Qui est l'auteur de... C'est vous, ça.
C'est moi.
C'est vous,
moi,
aussi, c'est... vous faites c'est... ça aussi également. Là.
Je fais ça en même temps. Hein. L'éditeur sera bien sûr Flammarion et le Louvre. Ça, je vais pas signer de contrat encore, mais ça me paraît tomber de bon sens. Mais en tout cas, j'espère que ça incitera, comme Stéphane Loire l'a fait pour les Italiens, à la publication d'autres catalogues raisonnés, des catalogues raisonnés minutieusement
oui.
Établis. Donc voilà.
Très bien. Parlons un peu maintenant de l'enseignement de l'histoire de l'art. Un de vos dadas, mais aussi un de mes dadas. Je dois dire que lorsqu'il y avait eu cette loi où on disait qu'on allait faire l'histoire de l'art, moi j'étais très sceptique et je pense que j'avais raison d'être sceptique. Est-ce que vous pensez que j'ai raison d'être sceptique?
Oui, vous avez raison d'être sceptique. Si vous voulez, vous avez toutes les raisons d'être sceptique, évidemment. C'est très 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 difficile dans cette période où la priorité c'est quand même de savoir lire et écrire, de défendre l'histoire de l'art dans l'enseignement. Je rappelle cependant que l'Italie, où l'enseignement d'histoire de l'art est obligatoire, a un public qui est beaucoup plus averti en visitant les expositions ou les musées que le public français. C'était incontestable.
Oui, mais alors, j'ai cru comprendre, en tout cas dans ce qu'on lit dans la presse, que l'enseignement de l'histoire de l'art obligatoire est terminé en Italie.
Non, c'est
non.
Complètement faux.
C'est faux, d'accord.
Il y a des petites tentatives, mais l'enseignement du latin est obligatoire en Italie. Du latin est obligatoire. Il est facultatif pour le grec, mais si vous faites des humanités, il est obligatoire. Donc quand même, ils ont maintenu là une tradition qui était quand même une des bases de l'enseignement français. Et là, pour l'histoire de l'art, on peut bien sûr toujours trouver des exceptions, des collèges où le professeur d'histoire de l'art, etc. Mais en gros, là, il est obligatoire, et il est obligatoire pendant 5 ou 6 années d'affilée.
Ceci dit, est-ce qu'on voit l'évolution de l'Italie montre quand même qu'il y a un désintérêt. Enfin, en tout cas, il y a un désengagement.
Quand on prend un train en Italie, on est toujours frappé de constater que dans ce wagon, les gens parlent de Caravage. C'est très frappant. Ils parlent de Caravage.
Ce qui est assez rare en France, il faut le dire.
Il faut le reconnaître.
Même de Poussin.
Mais non, même de Poussin. Oh là.
Surtout de Poussin, j'allais dire.
Oui, vous avez raison. Mais non, je crois que... je lisais hier ou avant-hier dans un journal, j'aurais dû l'apporter. Je n'ai pas pensé. Une interview de cet écrivain... noir d'Afrique, Nbaï, je crois qu'elle s'appelle, assez connue, qui vit à Berlin.
Oui.
Et où elle disait, j'ai beaucoup de mal à apprendre. Je suis familier avec la peinture, je suis familier avec le théâtre, avec la littérature, bien entendu. J'ai beaucoup de mal à être familier avec la musique, parce que elle n'était pas dans ma vie quand j'étais adolescente. Et que ce qu'on n'a pas appris quand on est adolescent, c'est beaucoup plus difficile ensuite de l'incorporer dans sa vie. Et c'est bien ça. Si on n'a pas cette chance à l'étape du lycée, de t'être familiarisé avec la musique ou avec la littérature, je crois que rattraper ce genre de retard est très très difficile. J'étais très frappé par cette phrase, j'ai même demandé à la faire photocopier pour la distribuer un peu autour de moi, parce qu'elle est très émouvante cette phrase, et elle montre à quel point la responsabilité des enseignants est considérable, et que je ne suis pas tout à fait sûr que cette responsabilité soit suffisamment prise en compte. Je rappelle aussi, tout le monde me dit quand je dis l'enseignement, etc., mais il y a les fameuses visite des musées, les fameux services éducatifs, dont je suis bien sûr le premier à les défendre, et le Louvre à cet égard a fait un travail considérable, je suis pour rien, mais enfin je veux dire, il a fait un travail considérable, mes prédécesseurs, mes successeurs, tout le monde a vraiment dans ce domaine fait un effort, mais et avec des résultats tout à fait notoires. On va au Louvre avec son professeur pour voir les salles égyptiennes, tout ce que vous voudrez, mais on y va quand même dans une idée, et c'est très bien, ludique. C'est une distraction, c'est un peu une vacance. Or, malheureusement, l'histoire de l'art, comme la musique, comme le théâtre, comme la littérature, pour y pénétrer, demande un effort. Et cette notion d'effort, elle est totalement oubliée aujourd'hui. Et malheureusement, l'effort, il existe. Moi, je le répète aussi quelquefois. Quand j'ai appris à écrire, j'ai dû pleurer. Parce que c'est un effort, vous résistez. Et je ne dis pas qu'il faille pleurer pour découvrir Poussin, ce serait ridicule. Mais je crois que cette notion d'effort pour pénétrer dans ce monde merveilleux qui font qu'une vie est heureuse, ou au contraire, à mes yeux en tout cas, un peu atrophiée, cet effort, cette notion de l'effort qu'il faut pour pénétrer la musique, eh bien, cette notion-là, elle est perdue de vue et c'est désolant.
Alors, en revanche, il y a un événement qui, depuis 2 ou 3 ans, mais l'histoire de l'art un petit peu sur le devant, c'est le Festival d'Histoire de l'Art. Est-ce que vous pensez qu'en, depuis sa troisième édition, je crois, ou la quatrième édition, est-ce que Festival de l'Histoire de l'Art marche? Est-ce qu'il a atteint son but,
ou son objectif? Il a atteint son premier but. Maintenant, il faut évidemment le...
Quel était son premier but, alors?
Le premier but, c'était de faire que les Français prennent conscience de l'existence d'une discipline qu'on appelle Histoire de l'Art. Parce que si vous voulez, vous regardez très souvent les journaux, les meilleurs, comme on vous fait l'éloge ou on descend en flamme une exposition, mais l'idée qu'une exposition puisse être faite par quelqu'un, un professionnel, ne vient pas à l'esprit. Et pourtant, une exposition, que ce soit son catalogue ou que ce soit sa présentation, c'est le fait de professionnels et qui sont bons ou mauvais, ça, la question n'est pas du tout là, mais de professionnels. Et ça, par exemple, les Français n'en ont pas conscience. Hier, je déjeunais avec un professeur au Collège de France qui fait partie des Lincei, qui est l'équivalent de l'Académie française, si on veut, ou d'Institut en Italie, dont je fais partie moi aussi naturellement, mais à titre étranger, ce qui est très... la section littéraire, artistico-littéraire, la moitié des membres sont historiens de l'art. C'est-à-dire que c'est une discipline reconnue. Ils sont 12, les vrais membres de la section qui correspondent donc... ils sont 12, dont 6 historiens d'art. Donc vous connaissez tous Mina Grégory, dont on vient de fêter hier les 90 ans, naturellement, par exemple. Et c'est une discipline reconnue. Les gens savent ce que c'est qu'un historien d'art. En Italie, un des hommes les plus célèbres, pour le meilleur et pour le pire...
Sgarbi.
C'est Vittorio Sgarbi. il est... Qui est...
Pas toujours pour le meilleur, quand même.
Non, mais ça, c'est une autre histoire. Vittorio Sgarbi est aussi connu que... J'ai trouvé quelqu'un qui soit aussi connu en France.
Que Sgarbi, Bernard-Henri Lévy, par exemple, ou des gens comme ça.
Oui. C'est, la comparaison, elle est ce qu'elle vaut.
C'est au point de vue...
Oui, notoriété.
Notoriété, je dirais.
Sgarbi est évidemment un homme qui aime les scandales, donc c'est un peu différent. Il aime la provocation à la télévision, etc. Mais voilà, quelqu'un qui est archi connu. Il n'y a jamais eu en France le moindre historien d'art qui a obtenu le centième de la gloire de Sgarbi.
Il y avait Federico Ozzeri, quand même, qui était
Oui, bien sûr. Mais toute l'Italie,
Mais c'est vrai qu'effectivement, les Italiens...
Roberto Longhi a droit à un timbre. Un timbre-poste. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un très grand styliste.
Donc, le Festival d'Histoire de l'Art n'a pas encore permis cela.
Non, c'est certain. Alors, chaque année, un pays est invité. Cette année, c'est la Suisse. Et le thème qui a été retenu, c'est les collectionneurs. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs en Suisse.
Oui. Alors, de plus en plus, hélas, peut-être.
Ça, c'est vous qui le dites, mais c'est hélas pas faux. Et donc, le thème des collectionneurs est un sujet merveilleux. Il y aura des tables rondes très intéressantes, quelquefois un peu provocatrices. Je crois que vous-même, vous allez y aller.
Ah non, je vais systématiquement au Festival d'Histoire de l'Art. Moi, j'aime beaucoup cette atmosphère. Oui. On rencontre tout le monde. Oui. En général, il fait beau. J'espère que ce sera la même chose cette année. Je reste les 3 jours. J'ai beaucoup participé l'année précédente. Cette année, on ne m'a pas sollicité, mais c'est pas très grave. Je serai l'année prochaine. En fait, je serai là. Ça me permettra d'aller voir, finalement, comme je ne participe pas, ça me permettra d'aller voir beaucoup plus Parce qu'il y a un petit reproche que je fais, c'est qu'il y a tellement de choses en même temps. Que des fois, j'animais des tables rondes et il y avait des choses qui se passaient à côté que j'avais envie d'aller voir. Là, au moins, alors s'il y a 2 choses qui m'intéressent, je ne pourrais pas voir les deux, mais je pourrais plus facilement me promener dans le Festival d'Histoire de l'Art.
Oui, oui. Il y a un peu trop de choses, c'est possible que ce soit vrai. Donc c'est la Suisse qui est invitée, et évidemment le thème des collectionneurs devrait attirer vers le festival les gens qui sont parfois en marge de l'histoire de l'art, mais qui sont essentiels pour l'histoire de l'art. C'est-à-dire les collectionneurs ont un rôle d'intermédiaire capital.
Alors, oui.
Et voilà.
En parlant des collectionneurs, justement, parce que je faisais réflexion récemment avec d'autres personnes, c'est que finalement, en France, il y a encore des gens qui ont beaucoup d'argent, et il y a assez peu de ces gens qui ont beaucoup d'argent qui sont collectionneurs d'art ancien.
Oui, c'est vrai.
Et est-ce que c'est pas lié justement au fait qu'il n'y a pas d'enseignement de l'histoire de l'art, donc ils n'ont pas appris à l'aimer?
Oui, c'est sûrement vrai le cas. En Italie, par exemple, les petites villes qui ont leurs banques, ont le devoir de défendre un peu les artistes de ces villes. Et par conséquent, ils ont acheté des tableaux qui... Donc, en Italie, le phénomène du collectionnisme fait qu'il y a une telle importance que les villes, les banques de ces villes sont obligées de participer à une sorte d'inventaire de ce qu'il y a de leur patrimoine et par conséquent de faire venir les œuvres de ces artistes qui ont été peints. Donc, si vous voulez, c'est un tout. Et c'est pour ça que je crois quand même que l'Italie reste un exemplaire, parce qu'il y a eu le phénomène, hélas, passé des banques qui publiaient les livres.
Et ils ne publient pas, ils ne publient plus.
Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Mais enfin, il a existé ce phénomène. Il existe encore un tout petit peu, mais enfin, il est plus ce qu'il était. Donc, c'est un tout. Et on voit bien que les Italiens ont su, collectionneurs inclus, intégrer leur passé à leur vie quotidienne, ce qui n'est pas le cas des Français.
La revue de presse.
La revue de presse, donc, mais Pierre Rosenberg nous disait effectivement qu'il avait encore des choses à dire sur les collectionneurs, il les dira, il n'y a pas de souci. Une revue de presse effectivement très brève, c'est un article que j'ai lu dans metronews.fr, donc ils veulent faire revivre la Madeleine. Je vais vous lire, effectivement, on apprend qu'une association composée de riverains et de commerçants proches de la Madeleine veulent aider à la restauration de la Madeleine, formidable. Et ils veulent également un projet de réaménagement de la place, ce qui est nettement moins bien. Je vais vous lire le projet car il faut le lire pour le croire. Et également, bien sûr, parce que les deux candidates à la mairie de Paris, NKM et Hidalgo, seraient très enthousiastes de ces projets. Je vais vous le lire parce que c'est un petit peu long, mais quand même, ça vaut le coup. D'abord, nous voulons réorganiser la place en déplaçant la circulation au centre et en créant de nouveaux espaces de vie avec des arbres, kiosques et animations autour et entre les immeubles et les voies de circulation, et ce, sans réduire le nombre de voitures, explique Jean-David Blanc. Ensuite, nous voulons concrétiser l'idée de faire de la place de la Madeleine, je le rappelle, une place du goût, de l'art de vivre et de la gastronomie. Ça manquait. Ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi.
Enfin, si la place devient piétonnière, vous piétonnière, vous n'y seriez pas opposé.
Elle ne sera pas piétonnière, il y aura autant de voitures. Enfin, nous voulons offrir un nouvel éclairage au site, à l'image de ce qui a été fait pendant les fêtes de fin d'année, mais de manière pérenne. Révélée dans les colonnes du JDD ce dimanche, cette illumination serait pour le moins originale. Les couleurs, la forme et l'intensité pourraient varier en fonction de la quantité et de la diversité des personnes qui passent sur la place. Les données seraient calculées en temps réel à partir d'informations Big Data, je cite, fournies en flux temps réel par un opérateur de téléphonie et interprétées simultanément par un ordinateur qui pilote les éclairages. Par exemple, s'il y a plus de femmes que d'hommes sur la place, l'éclairage pourrait être rose, si c'est l'inverse, bleu. Si ce sont des étrangers, orange, détaille le président de Madeleine 2.0, c'est le nom de l'association. Nous envisageons également des projections de vidéos sur les façades. Je viens de citer, c'est absolument accablant. Après l'avenue Foch où des promoteurs immobiliers veulent construire, projet qu'Anne Hidalgo trouve formidable, après donc la place de la Madeleine, je propose à tous les lecteurs et auditeurs de la Tribune de l'Art d'envoyer leurs idées d'aménagement des places parisiennes les plus débiles possibles, de préférence, avec beaucoup de lieux de vie, avec plein de morceaux de convivialité dedans. Succès garanti auprès d'Anne Hidalgo, probable prochain maire de Paris. C'est consternant, je ne sais pas si vous pouvez dire.
Mais je suis étonné que vous n'ayez pas cité la place de la République.
Ah, la place de la République, je n'ai pas. Alors, vous ne le disiez pas suffisamment en Tribune de l'Art. J'ai consacré plusieurs articles à cette place de la République avant même qu'ils ne la démolissent. Mm-hmm. J'ai montré qu'ils laissaient les fontaines se dégrader terriblement et que ça a permis de justifier la destruction. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette place de la République? C'est épouvantable.
Un pur désastre. C'est ne pas comprendre Paris.
C'est ne pas comprendre Paris, effectivement. Et malheureusement, Anne Hidalgo ne comprend rien à Paris. Enfin, Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo ne comprennent rien à Paris. Et demain, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'elle va être élue. Elle veut faire ça, place de la Bastille. Alors maintenant, il y a des idées sur la place de la Madeleine, l'avenue Foch qu'on veut construire. Alors que l'avenue Foch, c'est un site classé, mais c'est pas grave. Hein, on peut construire sur le site classé. On le voit depuis les serres d'Auteuil. Enfin, c'est vraiment quand même assez consternant. Donc voilà, c'était la seule. C'était tellement beau que je voulais en faire la seule revue de presse.
On s'aperçoit que tous les jeunes vont à Londres à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que Paris est devenu une ville triste.
En même temps, l'urbanisme à Londres n'est pas exceptionnel. Non, on abîme beaucoup la ville.
On abîme la ville, c'est certain, mais elle est restée vivante.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait, mais ça c'est une autre chose que la ville de Paris triste. Moi j'aime beaucoup habiter à Paris.
Bon, j'adore la ville, bien sûr.
Si on dit que la ville est triste, il va falloir la rendre plus gaie, et c'est ce que veut faire Anne Hidalgo en baisant du festif partout. Vous parliez tout à l'heure du ludique.
Non, non, là vous allez trop vite. Je crois qu'on peut rendre la ville attrayante, faire que les jeunes ne la quittent pas le week-end pour aller passer leur week-end à Londres ou à Berlin, sans passer par ce que vous dites vous. Là, il y a sans doute d'autres moyens de la rendre vivante.
Nous sommes d'accord sur ce point, effectivement.
Il faut la rendre vivante. Je suis rentré de.
Mais je suis pas sûr qu'elle soit morte.
Je suis rentré de Gaulle pas plus tard qu'avant-hier soir, à 11h du soir, de l'aéroport, et j'ai traversé Paris pour aller dans le 6e, et c'était quand même absolument effrayant. C'était pas comme ça, là, il y a 10-20 ans. Il y a eu une évolution, là, que je trouve... Je comprends pas. Je ne la comprends pas, et c'est malheureusement... Une ville, d'un côté, il faut évidemment la préserver au maximum, mais il faut aussi qu'elle soit vivante. Mais comment concilier les deux?
En tout cas, je ne pense pas, j'avais fait ma première chronique sur la notion de ville-musée, puisqu'on le lit partout, qu'il ne faut pas que Paris devienne une ville-musée, sous prétexte que ça serait mort. Mais c'est pas parce que c'est une ville-musée, on ne fait pas de Paris une ville-musée, d'ailleurs, on l'a détruit pas mal, donc c'est pas une ville-musée.
Mais je ne sais pas comment on peut la rendre attrayante. C'est certain que la mode, par exemple, à Londres, a dû jouer un rôle. Il y a 40 ans, là, quand la mode était à la mode londonienne, des mini-jupes et tout ça, ça a joué pour Londres.
Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas.
En tout cas, pour revenir au Festival Fontainebleau, c'est une affaire qui marche bien, comme on dit, ce n'est pas une affaire. Elle est soutenue avec beaucoup de courage, il faut bien le reconnaître, par le ministère de la Culture. Il est malheureusement le ministère de l'Éducation nationale et surtout celui de l'enseignement supérieur ne s'y intéresse absolument pas plus financièrement que... Donc il y a quelque chose là à faire. Donc je crois que le festival maintenant est entré dans les mœurs, mais qu'il faut qu'évidemment il soit pérennisé. Je voudrais que d'une opération qui est pour l'instant renouvelée chaque année avec un budget qu'il faut chaque année débattre, défendre, etc., etc., on puisse arriver à faire que ce festival soit inscrit dans la pérennité et que véritablement on puisse assurer sa vie pour les prochaines années, ce qui permettrait à ceux qui s'en occupent, qui sont très peu nombreux et très courageux, et qui s'y consacrent à fond, de se sentir plus à l'aise sur l'avenir du festival.
Vous vouliez parler des collectionneurs encore, vous avez quelque chose à dire sur les collectionneurs.
J'aime beaucoup parler des collectionneurs, ils ont rendu ma vie au Louvre heureuse. J'ai une phrase que je cite qui amuse, mais à force de la citer, ne l'amuse plus, qui consiste à dire que je suis convaincu que les seules personnes qui iront à coup sûr au paradis sont les collectionneurs.
Donc vous y êtes,
absolument, c'est une manière de m'assurer ma survie.
Je suis content, j'irai aussi. Alors.
Parfait. C'est une drôle de race. D'abord, ils sont extraordinairement variés, les collectionneurs. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et puis ensuite, ils ont un rôle assez important. Ils sont en sorte les intermédiaires. Ils ne sont pas des créateurs. Les créateurs sont les artistes qui, évidemment, tiennent le haut du panier. Et c'est normal qu'ils le tiennent. Mais ils ont un rôle. Leur collection est une manière d'assurer la survie à bien des artistes. Et en plus, ils ont un rôle ils ont souvent joué un rôle annonciateur. Je suis convaincu que dans la recouverte du XVIIIe siècle, mon cher XVIIIe siècle, les Goncourt, bien sûr, ont joué le rôle que l'on sait, mais je suis convaincu que les collectionneurs ont joué un plus grand rôle que les Goncourt. Et je veux dire, on les connaît, les Lacaze, les Marcy, etc., ces grandes familles qui ont collectionné. Et ils ont un grand malheur, les collectionneurs. C'est qu'ils n'écrivent pas, ils ne parlent pas. Par conséquent, on les oublie. Et survivent ceux qui écrivent. Et c'est injuste pour les collectionneurs qui n'écrivent pas et qui souvent, par leur goût, par leur audace, ont su ouvrir les yeux de leurs contemporains, plus encore que les historiens.
Récemment, par exemple, vous avez écrit sur Badrou, à propos de la collection de dessins du XVIIIe siècle, l'exposition.
J'ai beaucoup aimé Badrou, Henri Badrou, j'ai beaucoup aimé Kaufmann et Schlageter, des collectionneurs strasbourgeois qui ont donné leur collection en partie au Louvre, avec leur fort accent alsacien, de toute beauté. C'était Tiepolo qui avait droit à cet éloge. Et puis j'ai beaucoup aimé Mathias Polakowicz, dont les dessins sont à l'École des Beaux-Arts. En ce moment, d'ailleurs, il est un peu à l'honneur à l'exposition qui se tient à l'École des Beaux-Arts sur le paysage Rome.
Que je n'ai pas vu, dont je n'ai pas parlé. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que je n'ai pas parlé de l'exposition de l'École des Beaux-Arts.
C'est votre tort, là.
C'est un tort, tout à fait.
Et j'ai beaucoup aimé tous ces collectionneurs. J'en oublie certains qui ont rendu ma vie heureuse. J'ai beaucoup aimé Fabrizio Lemme, le collectionneur romain. J'ai beaucoup aimé ces personnes et qui ont toutes des forts tempéraments, des goûts très prononcés et puis surtout qui veulent survivre et qui très souvent savent que pour survivre il faut passer par le musée. Ça je vous le dis à vous parce que là vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Plus de 3 enfants. Il faut penser aussi à sa famille. Quand ça...
Non, la famille bien après l'école.
Non, mais de toute façon, effectivement, non, mais j'ai déjà donné 2 dessins à des musées.
Bravo.
Voilà. 2 petits dessins à des musées. Ouais. Et alors, je vous retourne également là.
mais j'y
je
songe.
Vous provoquer, donc votre collection.
Elle est modeste, mais enfin, son avenir, je vous promets qu'il sera muséal.
Très bien, parfait. Est-ce que, on vous parlait du musée de Rouen, justement. Je voudrais revenir une minute sur le musée de Rouen, j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai trouvé une idée assez intéressante. Sylvain Amix, son conservateur, qui fait des expositions, des petites expositions temporaires
dans les
espaces permanents. Et est-ce que c'est peut-être une des manières de faire vivre les collections permanentes? Parce que je sais que vous êtes, vos dada aussi, et c'est également un des miens. Les musées, vous le dites, sont souvent vides et les expositions temporaires sont pleines. Et est-ce qu'il ne faut pas justement essayer d'inventer des choses? Un peu peut-être d'ailleurs comme le fait, alors le musée est en partie fermé malheureusement à Amiens avec son nouvel accrochage de tableaux, où ils renouvellent un accrochage et ils montrent des choses nouvelles avec leur collection.
Je suis absolument convaincu que c'est une formule. Le tableau du mois, pour parler du Louvre, est à mon avis quelque chose de très important. Je crois que obliger, faire en sorte que certains visiteurs du musée s'arrêtent pendant un quart d'heure devant un seul tableau, qu'on explique, dont on explique l'histoire, qui l'a acheté, etc., etc., comment il est entré dans le musée, dont on explique le sujet, dont on explique comment on a trouvé l'auteur, toutes ces choses-là, c'est une manière de pénétrer dans l'histoire de l'art. Une fois de plus, c'est la notion de temps. Parce que tout à l'heure, j'en parlais à propos du Bernin. Ce qui me frappe, c'est qu'en effet, il prenait son temps. Et nous ne prenons pas notre temps. Donc il faut, à mon avis, trouver des moyens qui fassent que les visiteurs des musées de province ou de Paris, de région ou de Paris, aient envie d'aller voir une œuvre un peu événement. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. À l'heure actuelle, les musées deviennent très, très difficiles pour les visiteurs. Les gens ne connaissent plus la Bible. Ils ne connaissent pas plus la mythologie. Ils ne connaissent pas la mythologie. Donc tout ça, c'est une grande salade. Les musées sont très difficiles pour le public. Et il faut les aider. Et je crois que les aider, c'est justement par quelques œuvres sur lesquelles on les consent, on les rassemble et qu'on leur montre un peu, qu'on leur décorte, et qu'on peut arriver à les retenir. Donc, je crois que les petits événements dans les musées sont une manière de faire venir dans ces musées un public qui a tendance à les déserter. On le sait, c'est pas le cas du Louvre, bien entendu, mais on le sait pour beaucoup de grands musées qui sont vides, évidemment, et qui sont vides parce que trop difficiles. Et en plus, vous habitez une ville, vous avez pris l'exemple de Rouen, il est excellent, j'aime beaucoup les expositions qui se sont faites, j'ai vu les dernières. Vous prenez une ville comme Rouen, vous ne pouvez pas aller tous les jours au musée. Il est beau, il a de très riches collections, mais il faut renouveler. Il faut donc un petit événement un petit peu glamourous peut en effet faire en sorte que des gens reviennent au musée plus souvent que les faire revenir régulièrement au musée. Donc je crois beaucoup au petit événement, surtout si on le lance d'une manière un petit peu ludique ou un petit peu journalistique. Il faut y aller carrément.
Livre. Oui, les livres donc, alors une moisson assez riche, beaucoup de catalogues d'expositions, mais également, j'ai reçu, et c'est un livre que je voulais acheter il y a quelques semaines, mais il était épuisé, là il vient de reparaître en folio, c'est normal, puisque le film sort, donc on parle rarement de cinéma sur la tribu de l'art, donc c'est le livre Monuments Men, bien sûr. Ce qui est assez étonnant, c'est que je voudrais signaler que deux films que je n'ai pas encore vus, je n'ai vu aucun des deux, je n'ai pas encore lu ce livre, qui traitent tous les deux de la question de la protection du patrimoine en temps de guerre. Le premier est un film de Volker Schlondorf qui s'appelle Diplomatie et qui parle de la décision du général von Scholtitz d'épargner les monuments de Paris qu'Hitler avait décidé de détruire. Le second sortira la semaine prochaine et c'est donc le film de George Clooney dont vous avez forcément entendu parler puisqu'on en parle partout dans la presse et à la télévision, Monuments Men. Nous savons déjà que le premier prend d'assez grandes libertés avec l'histoire, mais du moment qu'il lui fait de beaux enfants, comme disait Dumas, je ne sais pas encore ce qu'il a fait de beaux enfants, un bel enfant, parce que je n'ai pas vu le film. Le second aura probablement un côté hollywoodien, peut-être un peu excessif. Néanmoins, c'est quand même important de montrer que les monuments et l'art, pendant la guerre, bien sûr, des gens meurent, mais les monuments meurent aussi. Et j'ai retenu dans la bande-annonce de ce film une phrase que je trouve très belle. Vous pouvez décimer une génération entière, mais d'une manière ou d'une autre, elle arrivera toujours à s'en remettre. Mais si vous détruisez son histoire, si vous détruisez ses œuvres, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et je dois dire que cette phrase tirée d'un film hollywoodien me paraît extraordinaire. Je ne sais pas s'il l'a trouvée ailleurs,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais
oui,
je trouve
c'est une très belle phrase. Et c'est vrai que nous passons, les œuvres restent, et c'est ce qui rend le métier de conservateur si important.
Exactement.
Parce qu'il a sa première occupation, son premier rôle, c'est de faire que les œuvres soient transmises.
Alors je me rappelle que lorsque j'avais parlé du tremblement de terre de L'Aquila le lendemain, et que j'essayais de savoir ce qui avait été abîmé, pas abîmé, etc., j'avais reçu un ou deux mails de gens absolument scandalisés qu'on ose parler des monuments alors que des gens étaient morts. Mais c'est les gens sur place, je suis allé après L'Aquila, pour eux c'était très important. Même ceux qui ont perdu des gens de leur famille, le patrimoine était très important. Parce qu'effectivement, si on détruit ça, c'est leur âme qu'on détruit.
Mais c'est en Italie.
Et c'est en Italie, tout à fait, vous avez raison, effectivement. Et c'est des Français qui m'avaient écrit pour s'indigner, alors que même les journaux italiens s'inquiétaient et que sur place, on essayait de tout faire pour sauver à la fois les monuments et les gens. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Un autre catalogue que nous avons, deux catalogues que nous avons reçus, édités par Alain de Gourcuff, et deux catalogues de la piscine, Roubaix, ce très beau musée. Alors, le premier, un catalogue de Jean-René Gauguin, donc le fils du peintre qui était sculpteur et céramiste. Et le deuxième, dont vous voulez nous dire un mot, vous n'avez pas vu cette exposition ni lu le catalogue, mais c'est André Fougeron, un artiste que je ne connais pas, un peu tardif, des années 30 et 50.
Je viens de feuilleter le catalogue, je recevrai, car j'y suis prêteur, à cette exposition. C'est un artiste qui est ma génération a connu, car c'était l'artiste officiel du Parti communiste français. Et c'est un artiste très étonnant, et Roubaix, une fois de plus, a le courage de réhabiliter, de faire connaître, et c'est un artiste très étonnant, qui doit plus peut-être à Matisse qu'à Picasso, mais qui à mon avis, je n'avais pas vu le catalogue jusqu'à présent, je connaissais un peu Fougeron, voyant le catalogue, j'ai envie d'aller voir l'exposition.
Une autre exposition qui vient de commencer, dont vous aurez une recension sur la Tribune de l'Art, au Petit Palais, Carl Larsson, l'imagier de la Suède. Je dois avouer à ma grande honte que je ne connaissais pas Carl Larsson. Donc Christophe Leribaud m'a dit qu'il était en fait une icône en Suède, une véritable icône, et c'est une exposition assez belle, avec ces artistes vraiment très attachants.
Là, j'ai un mot à dire, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire de l'art. Je suis donc allé hier à l'inauguration de l'exposition, invité par Christophe Leribaud, dont j'admire beaucoup ce qu'il fait, et on m'a présenté, non pas la reine de Suède, mais la princesse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je lui ai dit quelques mots, elle m'a d'abord dit quelques mots, puis ensuite elle a tout de suite bifurqué sur l'anglais. Alors ça m'a mis en colère, parce qu'après tout, la reine de Suède, les Suédois, c'est des descendants de Bernadotte. Quand même, le français. Alors quand même, j'étais scandalisé.
Oui, mais malheureusement, on s'aperçoit que le problème, c'est que les Français, des fois, ne croient pas à leur propre langue.
Mais oui, mais Bernadotte, enfin...
Donc on ferme des centres français à l'étranger, parfois on dit qu'on va enseigner en anglais en France. C'est un peu, effectivement, problématique. Deux autres catalogues pour terminer, des catalogues de dessins, des expositions dont nous parlerons, que nous n'avons pas encore vu, que je n'ai pas encore vu, les dessins nordiques du musée de Grenoble. Donc c'est une exposition qui va ouvrir dans quelques jours à Grenoble. On sait que Grenoble, on se rappelle que Grenoble avait fait les dessins italiens avec Eric Pagliano, les dessins français avec Guillaume Caseroni et vous-même, Pierre Rosenberg, oui. Qui est de toutes les, oui. Forcément vous êtes de toutes les entreprises, les bonnes entreprises. Et donc là, en revanche, c'est David Mandrella, donc
que je connais très bien, qui est un Allemand qui vit en France et qui n'arrive pas à trouver la situation qu'il mériterait de trouver. J'espère.
Comme hélas, beaucoup d'historiens, trop d'historiens d'art de valeur qui n'ont pas encore. Enfin, peut-être que s'il y avait cet enseignement d'histoire de l'art, ils pourraient trouver des postes d'enseignant.
Absolument. Donc voilà, quelqu'un qu'il faut absolument garder dans notre pays.
En tout cas, clairement, je n'ai pas encore vu l'exposition, mais le catalogue est un catalogue très riche, édité par Somogy. La deuxième exposition est une exposition de dessins français du XVIIe siècle. Encore beaucoup de découvertes aussi, puisque c'est une partie du fond de la Bibliothèque nationale, sous la direction de Barbara Brojon de Lavernier, éditée par la BNF. Là encore, vous faites la préface.
J'en fais trop.
Non, pas du tout. Et vous faites la préface et vous faites remarquer, j'ai commencé à lire le catalogue, j'aurais pas dû avant de le voir à l'exposition, mais c'est pas grave, j'ai un peu de mal à m'en empêcher, qu'il y a beaucoup d'inédits.
Ah oui, c'est un fond magnifique, et c'est un travail qu'on attendait depuis longtemps, et que Barbara Brojon a mené à bien avec beaucoup de courage.
Qui sera complété d'ailleurs par un site internet, où les dessins qui ne sont pas publiés dans le livre, dans le catalogue, seront sur ce site internet, dont je ne manquerai pas de donner le lien.
Toutes ces expositions de dessins sont évidemment liées au Salon du dessin.
Bien sûr, il faut rappeler, on parlait de Maastricht, effectivement, et la semaine, je ne veux pas
24,
dire de bêtises.
Ça commence plus ou moins le 25.
Moi, voilà,
plus ou moins le 25, je suis plus
le 25 mars ouvrira le Salon du dessin, qui est un des grands événements du marché de l'art et qui a lieu à Paris, qui a transformé Paris en une semaine. Pendant une semaine, Paris devient la capitale du dessin ancien.
C'est exactement ça.
Alors, Pour terminer, il nous reste encore 2-3 minutes. Est-ce que vous voulez nous parler de 2-3 expositions que vous avez vues et qui vous ont particulièrement intéressé, peut-être que les auditeurs n'auraient pas entendu parler?
Ben, j'ai mal vu l'exposition, mais je la verrai plus en détail, qui a lieu en ce moment au Louvre, fait par Madame Gadi.
Alors, on en parle dans toutes les émissions. Ça fait 3 ou 4 émissions qu'on en parle. Moi, j'étais dithyrambique sur cette exposition qui est magnifique.
Il faut l'être.
Magnifique, avec un catalogue, avec énormément de nouveautés, là encore.
Alors, j'ai vu une petite exposition que très peu de gens verront, je pense. Je l'ai vue à Venise. Elle a lieu à Carezzonico sur un artiste qui a un grand nom, mais qui n'est pas un grand artiste, qui s'appelle Pietro Bellotti, oui. Et qui est le frère du grand Bellotto, et qui est un artiste modeste, vénitien bien sûr, du XVIIIe siècle, et qui a sillonné la province en France. De peintre itinérant qui, à mon avis, de Toulouse, etc., dans chaque ville, essaie de trouver une clientèle qui fait des petites cartes postales vénitiennes. C'est une exposition assez sérieuse, même très sérieuse, très bien faite.
Il fait des peint des figures, c'est ça?
Ah non, pas du tout.
C'est uniquement un peint vénitien.
Ah, c'est uniquement.
Alors, je confonds. Honte sur moi.
C'est un Canaletto de la province française.
Honte sur moi. Il y en a dans les musées français?
Il y en a, non, mais il y en a sans doute, oui, il y en a dans les musées français, c'est sûr, mais l'essentiel de sa collection, l'essentiel de ses œuvres, c'est une collection privée près de Toulouse, que je ne connaissais pas, qui conserve une trentaine de ses tableaux qui sont des vues.
Qui sont exposés là-bas.
Ah oui. Absolument, une petite
exposition. Honnêtement, je connaissais le nom de Pietro Bellotti et je confonds avec un autre.
Il y a deux Bellotti en vérité. Il y en a un du XVIIe siècle, ce qui me permet de parler d'une autre exposition et qui me permet en plus de retomber complètement sur mes pieds. C'est un miracle. Vient d'ouvrir à Brescia la semaine dernière, Brescia, une grande métropole de l'acier entre Venise et Milan, bien sûr, une exposition consacrée à 100 ou 120 tableaux de collections privées de Brescia. Et essentiellement des tableaux de l'école de Brescia, donc Moretto, Savoldo et bien sûr Cerruti qui triomphe à la fin de l'exposition, un immense artiste qui est absent des collections du Louvre hélas, et une exposition uniquement de tableaux de collections privées de la région de Brescia ou de Brescia, et une exposition évidemment de collections privées, je veux dire ce ne sont pas les grands tableaux des musées, mais il y a quelques très grands tableaux. Une exposition assez importante et faite par un tout jeune historien d'art, Davide Dotti, avec deux T, un tout jeune historien d'art qui se veut faire connaître le patrimoine de cette région riche, mais voilà.
Alors terminons justement sur juste un mot, donc des jeunes historiens de l'art en Italie, là on voit énormément de livres avec des jeunes historiens de l'art en France, de très compétents. La relève, en tout cas, il y a énormément d'historiens de l'art.
La relève est bonne. Il y a des jeunes qui, j'en vois pas tous les jours, mais très régulièrement, de très remarquables. La relève est très... Non, le métier est pris très au sérieux. Par des gens qui s'intéressent à toutes sortes de choses, pas forcément uniquement à la peinture ou au dessin du XVIIe siècle français. Et c'est très bien qu'il en soit aussi. Je ne suis pas pessimiste. Il faudrait espérer, bien sûr, qu'ils aient des débouchés qu'ils méritent.
Écoutez, Pierre Rosabert, en tout cas, merci beaucoup pour avoir votre participation à cette émission. Nous retrouvons une émission de la Semaine de l'Art, non pas la semaine prochaine, donc, mais dans 2 semaines exactement. En attendant, vous pouvez toujours voir et lire la Tribune de l'Art sur Internet. À bientôt. Au revoir.